Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Je n'abandonne pas la croix, mais je reste d'une façon nouvelle près du Seigneur crucifié. À quelques heures de la fin de son pontificat, Benoît XVI a expliqué son geste et livré un message de confiance aux catholiques. Pour sa dernière audience générale ce mercredi, des délégations officielles, des représentants de mouvements d'église, Focolari, chemin néocatéchuménal, communauté de Thésée, mais aussi des simples fidèles, avaient envahi la place Saint-Pierre et ses alentours. Nous en parlons tout de suite dès le début de ce magazine. Je voudrais que chacun éprouve la joie d'être chrétien, d'être aimé de Dieu qui a donné son Fils pour nous. C'est le message que Benoît XVI a voulu délivrer quelques heures avant de quitter sa charge. Le pape, serein et souriant, a fait ses adieux aux fidèles ce mercredi matin au cours de sa dernière audience générale, tenue en plein air, place Saint-Pierre, sous un soleil radieux, en présence de dizaines de milliers de personnes qui l'ont acclamé chaleureusement.
Grazie di cuore, sono veramente commosso.
Merci de tout cœur, je suis émue et je constate que l'Église est vivante, a lancé Benoît XVI, avant de revenir longuement avec des accents très personnels sur sa décision et sur son pontificat. Un discours ponctué de phrases fortes, prononcées d'une voix ferme, interrompu à plusieurs reprises par des ovations. Le pape n'est jamais seul. Dieu ne laissera pas couler l'Église. Un pape ne peut pas revenir à la vie privée. Toujours, c'est pour toujours. Le cœur d'un pape contient le monde entier. Le pape appartient à tous. Des paroles qui ont suscité une vague d'émotions. Dans un discours en forme de testament spirituel, Benoît XVI a évoqué les eaux agitées de son pontificat, mais aussi sa confiance sans faille, et il a assuré qu'après sa renonciation, il continuerait à soutenir l'Église par la prière.
Il y a eu des moments pas faciles, dans lesquels les eaux étaient agitées et le vent contraire, comme dans toute l'histoire de l'Église, et le Seigneur semblait dormir. Mais j'ai toujours su que la barque de l'Église n'est pas mienne, n'est pas nôtre, mais qu'elle est sa barque et qu'il ne la laisse pas couler.
Et le Seigneur ne la laisse pas affonder.
Encore désorientés par sa décision historique, les fidèles attendaient des réponses à leurs interrogations et Benoît XVI ne les a pas déçus. Il s'est livré sans amertume, avec la sincérité, la simplicité et l'honnêteté qui l'ont toujours distingué. Il a affirmé qu'au moment de son élection en 2005, un grand poids avait été posé sur ses épaules et que la dimension privée de sa vie avait été complètement supprimée. Et à propos de sa renonciation, il a ajouté « J'ai franchi ce pas dans la pleine conscience de sa gravité et aussi de sa nouveauté, mais aussi dans une grande sérénité d'âme. Je n'assume plus le pouvoir de la charge du gouvernement de l'Église, mais je demeure dans le service de la prière. Saint Benoît, dont je porte le nom comme pape, me sera un grand exemple. » On l'écoute résumer son allocution en français.
En ce moment, je voudrais surtout rendre grâce à Dieu, qui guide et fait grandir l'Église, qui sème sa parole et nourrit aussi la foi de son peuple. Je remercie toutes les personnes qui, avec générosité, m'ont aidé, m'ont été proche durant mon pontificat. Ces derniers mois, j'ai senti que mes forces avaient diminué et j'ai demandé à Dieu de m'éclairer pour prendre la juste décision pour le bien de l'Église. Je vous remercie pour le respect et la compréhension avec lesquels vous l'avez accueilli. Je continuerai à accompagner le chemin de l'Église par la prière et la réflexion. En cette année de la foi, je vous invite à renouveler votre ferme confiance dans le Seigneur et à vous être aimé de Dieu qui nous a montré son amour infini. Il guide et soutient toujours son Église. Ne perdons jamais de vue cette vision de foi. Que votre cœur soit rempli de la joyeuse certitude que le Seigneur est proche de nous, qu'il nous accompagne de son amour. Je vous demande de vous souvenir de moi devant Dieu et de prier pour les cardinaux appelés à élire un nouveau successeur de l'apôtre Pierre. Puis aussi pour que le Seigneur l'accompagne de la lumière et de la force de son esprit. Que Dieu vous bénisse. Merci.
Plus de 150 000 personnes, selon les estimations les plus fiables, ont assisté à la dernière audience générale de Benoît XVI, agitant des drapeaux de nombreux pays, brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire leur attachement, disant merci dans toutes les langues, manifestant un enthousiasme débordant quand la papa mobile a fait le tour de la place. Dès les premières heures de la matinée, ils avaient commencé à s'approcher de Saint-Pierre, bloqués par des barrières métalliques, pour vivre les derniers instants publics de leur pape et lui exprimer leur reconnaissance. La place, comme la Via della Conciliazione, la grande artère menant du Tibre au Vatican, était noire de monde. Des paraboles de télévision et des écrans géants étaient là, comme pour les funérailles de Jean-Paul II en 2005 ou sa béatification en 2011. Laïcs, prêtres, religieux, jeunes, moins jeunes, italiens, sud-américains, nord-africains, tous renvoyaient l'image d'une église universelle et diverse, unie pour un moment historique. Le reportage de Manuela Affigi.
L'événement est unique, le moment historique. Les quelques 100 000 personnes présentes ce matin sous une place Saint-Pierre inondée de soleil ne l'auraient manqué pour rien au monde. Des jeunes, des vieux, des familles, des prêtres, des religieux, tous sont venus dans l'espoir de voir Benoît XVI, de croiser une dernière fois son regard, mais surtout pour lui exprimer leur amour, leur affection et leur gratitude. Sur les visages, des sourires. Sur les lèvres, des chants et des acclamations. Dans les cœurs, une même émotion, une même ferveur. Les drapeaux sont agités avec fierté. Les nombreuses banderoles sont placées bien en évidence. Le pape doit pouvoir les voir lorsqu'il passera en papa mobile. Benoît XVI, tu es grand. Benoît XVI, tu nous manqueras. Nous ne nous sentons pas abandonnés mais fortifiés. Tu es Pierre, nous t'aimons. Merci de tout cœur. Benoît XVI arrive sur les coups de 10h30, souriant, effectuant en papa mobile le tour de la place sous les vivats d'une foule enthousiaste. Des enfants lui sont présentés, il les embrasse de bon cœur. Son discours, très personnel, est interrompu à de nombreuses reprises par les applaudissements. Certains sont en larmes, car on sent malgré tout une pointe de tristesse chez les fidèles qui auront aimé et admiré jusqu'au bout ce pape courage dont il salue la bonté, l'humilité et l'intelligence.
Ça a été un moment très très fort, extraordinaire, avec beaucoup d'émotions. C'est une des rares fois où le pape a parlé de lui. Et il nous a parlé comme un père. Et il a rappelé vraiment quel était le sens de la mission de Pierre et de ses successeurs. Et donc pour nous, c'est vraiment une très très grande émotion et beaucoup de joie en même temps, beaucoup de paix. Voilà, même si il y a un peu de tristesse évidemment de le voir partir. Mais voilà, donc on rend grâce pour ce qu'on a reçu et voilà.
Bah, c'est un témoignage personnel, et il l'avait très peu fait jusque-là, à part quelques exceptions, et il livre son propre cœur, c'est-à-dire l'acte qu'il a posé d'offrir sa vie pour l'Église et jusqu'au bout, et il explique en quoi il la donne jusqu'au bout.
Et bien, beaucoup d'émotions, hein, voilà.
Pour vous, Benoît XVI, c'était qui ?
Un
papa.
Un papa.
Ouais, vraiment un papa.
Qu'est-ce que vous retiendrez de lui ?
De la douceur, l'humilité, la force, le courage,
l'intelligence, la ténacité.
Les fidèles quittent la place une fois l'audience terminée et une seule parole jaillit des cœurs et des lèvres.
Merci, merci, merci.
Merci, merci, merci Benoît XVI, nous sommes
merci
bouleversés.
Merci, nous vous aimons.
Le pape les a exhortés à l'espérance, à la confiance, à la joie. L'Église est un corps vivant, elle est vivante. Ces paroles de Benoît XVI, largement applaudies, ont confirmé ce que les médias du monde entier ont constaté ce matin.
L'envoyé de l'hebdomadaire français La Vie a constaté qu'il y avait autant de tristesse que de joie. Tristesse de l'adieu, joie d'être rassemblé pour un moment aussi important. Le témoignage est fort, écrit pour sa part l'abbé Seguin sur son blog. Jean-Paul II nous a enseigné comment mourir, Benoît XVI, lui, nous enseigne comment accepter nos limites. À la fin de l'audience générale, dans la salle Clémentine, le pape a brièvement salué les personnalités politiques qui avaient fait le déplacement pour assister à cette dernière audience. Le chef de l'État slovaque, les capitaines régents de la République de Saint-Marin, le président de l'État de Bavière, les princes d'Andorre et le maire de Rome. Le grand-duc héritier du Luxembourg a lui aussi assisté à l'audience, ainsi que le ministre italien de la Santé et le ministre espagnol de l'Intérieur.
En
En près de 8 ans de pontificat, Benoît XVI aura tenu 348 audiences générales auxquelles ont participé quelque 5 120 000 fidèles. C'est l'année 2006 qui bat les records en termes de participation. La première audience générale de Benoît XVI remonte au 27 avril 2005. Je vous propose de réécouter les paroles qu'il avait prononcées ce jour-là en français.
Devant la charge qui m'a été confiée, je suis plein d'étonnement et de gratitude envers Dieu. Son aide, ainsi que celle de la Vierge Marie, me donne joie et sérénité. Votre prière m'est d'un grand soutien. J'ai choisi le nom de Benoît en référence à Benoît XV, qui a guidé l'Église dans la période difficile de la Première Guerre mondiale. Sur ces traces, je désire participer à la réconciliation et à l'harmonie entre les hommes et entre les peuples. Le nom de Benoît évoque aussi le père du monachisme occidental, copatron de l'Europe, particulièrement vénéré dans mon pays et surtout en Bavière. Saint Benoît avait inscrit dans sa règle de ne rien mettre au-dessus du Christ. Nous lui demanderons donc de nous aider à rester le regard fixé sur le Christ.
Benoît XVI lors de sa première audience générale le 27 avril 2005. Ses prochains actes publics seront retransmis en direct sur nos fréquences et en vidéo sur le site internet de Radio Vatican, www.radiovaticana.va, où vous pouvez retrouver, lire et écouter nos articles et interviews. Vous pouvez également nous joindre sur Facebook et je vous rappelle que depuis quelques jours, les applications pour tablettes et smartphones de Radio Vatican parlent aussi en français. Vous y retrouverez tous les moments saillants de l'actualité vaticane. Elle permet également d'écouter Radio Vatican en direct. Enfin, ce jeudi de 17h à 18h, vous pourrez suivre sur les fréquences de la radio RCF et sur YouTube, canal Radio Vatican, une émission coproduite par Radio Vatican et RCF et consacrée à cette fin de pontificat. Mais que va-t-il se passer justement ces prochains jours ? C'est Olivier Benel qui nous le rappelle.
Ce jeudi 28 février, en milieu de matinée, Benoît XVI rencontrera tous les cardinaux présents à Rome. Ils étaient déjà 70 à la dernière audience générale ce mercredi. À 17h, il quittera le Vatican en hélicoptère pour Castel Gandolfo et sera salué par les responsables de la secrétaire d'État et par le doyen du Sacré Collège. Son dernier acte public aura lieu à 17h30, quand le pape saluera les fidèles de la loggia de la résidence de Castel Gandolfo, où il séjournera pendant environ 2 mois. Les fidèles attendront son arrivée en récitant le chapelet au flambeau. Le 264e successeur de Pierre mettra fin à ses fonctions sans cérémonie à 20h, après avoir guidé l'Église universelle pendant 7 ans, 10 mois et 9 jours. Des messes d'action de grâce seront célébrées dans plusieurs pays, en France, en Italie ou en Belgique. À ce moment-là, la garde suisse cessera son service devant la porte du palais apostolique. La gendarmerie continuera à veiller, elle, sur la sécurité du pape. S'ouvrira alors la période de siège vacant. Benoît XVI cessera de porter l'anneau du pêcheur et le sceau sera annulé. Il continuera à s'habiller en blanc, une simple soutane blanche. Quant à son titre, on l'appellera sa sainteté Benoît XVI, pape émérite ou pontife romain émérite. Dès vendredi, le doyen du Sacré Collège, le cardinal Angelo Sodano, enverra les invitations aux cardinaux pour les congrégations qui précèdent le conclave, mais celle-ci ne devrait pas commencer avant lundi. Les cardinaux électeurs s'installeront à la maison Sainte-Marthe, à l'intérieur du Vatican, dès l'entrée en conclave. Benoît XVI sera toujours en vie. Pape pour toujours, créant une situation nouvelle.
Habemus Papam, c'est le cardinal français Jean-Louis Torrent qui sera chargé d'annoncer dans quelques jours le nom du nouveau pape à la fin du conclave depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre. Une responsabilité qui lui incombe en qualité de cardinal protodiacre, le premier des diacres. Créé cardinal en octobre 2003, Jean-Louis Torrent, originaire de Bordeaux, a été durant le pontificat de Jean-Paul II, secrétaire pour les relations avec les États, puis bibliothécaire de la Sainte-Église, avant d'être nommé par Benoît XVI, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Hélène Détombe l'a rencontré juste après l'annonce de renonciation du pape. Il s'attarde sur l'héritage laissé par Benoît XVI et sur son message.
Nous sommes face à un pape qui a été le pape de l'essentiel, qui nous a invités à retrouver nos racines spirituelles, à conjuguer foi et raison. Alors je crois qu'avec la foi, la raison et le cœur, on arrive à faire quelque chose de beau et de contagieux. Je crois que c'est ça son message. Nous sommes dans la main de Dieu et nous avons à être des chrétiens cohérents. Et en cela, le pape nous a beaucoup aidés.
Dans ce monde où Dieu n'a souvent plus vraiment sa place, Benoît XVI se retire pour remettre Dieu au centre de tout.
Ça a toujours été, je pense, son programme. Le pape, d'ailleurs, c'est pas seulement un intellectuel, c'est surtout, un mystique. Souvent, on s'extasie devant ses homélies, mais ses homélies, certainement, sont très théologiques, mais elles sont surtout le fruit d'une expérience mystique. Un pape qui prie beaucoup, il ne le montre pas, peut-être, mais il prie beaucoup.
Benoît XVI va donc se retirer à partir du 28 février. Quels sont les grands dossiers qu'il va laisser au futur pape ?
Il y a la nouvelle évangélisation, la formation du clergé, le problème de la famille. C'est pas les problèmes qui manquent.
Le dialogue interreligieux également, la Chine.
Alors j'espère que le dialogue interreligieux, évidemment, continuera à être la priorité de son successeur. En tous les cas, ce que j'ai toujours dit, le pape Benoît XVI a été le pape qui s'est le plus investi dans le dialogue interreligieux, en particulier avec les musulmans. Il a quand même visité 3 mosquées, il a fait des discours très importants sur le dialogue interreligieux, en maintenant toujours cette préoccupation d'un dialogue loyal, respectueux, mais ce n'est pas du tout sans confusion, sans relativisme, sans syncrétisme.
Vous serez donc la personne qui prononcera ce fameux Habemus Papam et annoncera le nom du nouveau pape. C'est une lourde responsabilité.
Vous savez, le pape m'a confié cette charge. Il m'a dit, alors c'est vous qui allez dire le nom de mon successeur. Je dis très Saint-Père, que Dieu ne plaise. Effectivement, il avait raison. Mais il n'est pas mort, donc c'est une bonne chose. Vous savez, Oui, je serais content d'être d'anticiper la voix du pape.
Pour conclure, quel est votre plus beau souvenir aux côtés de Benoît XVI ?
Oh bien, c'est peut-être le voyage en Terre Sainte, pour des raisons personnelles, parce que je suis très attaché à cette partie du monde, mais tout c'est le message qu'il a délivré, puis voir ce pape dans la terre où Jésus a vécu, enfin, je crois que c'était très beau.
C'était le cardinal protodiacre Jean-Louis Torrent. Avant de quitter sa charge, Benoît XVI a réglé un certain nombre de questions qui lui tenaient à cœur, certaines très pratiques. Ainsi, à partir de 2014, les 2 intentions de prière proposées tous les mois aux fidèles par l'apostolat de la prière changeront de nom. Elles ne s'appelleront plus « général et missionnaire », mais respectivement « universel » et « pour l'évangélisation ». Il s'agit de mieux exprimer leur contenu. La première fera référence à des thèmes qui peuvent intéresser toutes les personnes de bonne volonté, y compris les non-catholiques. Le pape a voulu rendre visible le désir de l'Église de s'ouvrir aux besoins du monde actuel et favoriser la collaboration entre ceux qui partagent les mêmes préoccupations. La deuxième intention, pour l'évangélisation, se rapportera à des thèmes directement liés à la vie de l'Église. Cela permettra d'approfondir et de clarifier la compréhension théologique de la mission. Les temps ont changé, la mission ne s'adresse plus seulement aux terres lointaines, mais à la communauté ecclésiale universelle. La distinction entre pays catholique et pays de mission, qui avait sa raison d'être en 1927, quand furent instituer des intentions de prière n'est plus actuelle. Au contraire, l'évangélisation semble plus urgente et nécessaire dans les pays évangélisés depuis longue date. Tous peuvent donc prier pour l'Église et avec le pape à ses intentions. Ce 28 février, on priera aux intentions de Benoît XVI dans toutes les fraternités de la custodie de Terre Sainte pour accompagner le pape en ses dernières heures de pontificat et pour soutenir l'Église pendant la période dite du siège vacant. Le père Pizzaballa, responsable de la custodie, demande aux frères mineurs d'organiser des prières communautaires. Il évoque l'attention que le pape a réservée à la Terre Sainte. Les frères mineurs prieront dans des lieux hautement symboliques. Avant de quitter Vienne pour Rome mardi, le cardinal Christoph Schönborn a adressé une lettre aux 40 réfugiés qui occupent une église depuis la mi-décembre pour réclamer leurs droits et le respect de leur dignité. L'archevêque de Vienne demande une fois encore que ces immigrés sans papier se déplacent dans un lieu plus adéquat et qu'ils collaborent avec les autorités. « S'il vous plaît, soyez raisonnable », écrit le cardinal Schönborn, « ne détruisez pas vos chances réelles dans cette église au nom d'une illusion ». Selon Caritas, qui vient en aide aux réfugiés, il ne peut y avoir de solution collective. Chaque demandeur d'asile devrait clarifier sa situation. Ils risquent actuellement de perdre leur chance d'obtenir un permis de séjour. Le président de la Caritas portugaise critique la cure drastique d'austérité imposée par Bruxelles. Eugenio Fonseca a demandé au Premier ministre portugais d'empêcher les représentants de la Troïka arrivés à Lisbonne d'imposer de nouveaux sacrifices au pays. Nous aimerions que le gouvernement soit plus ferme et qu'il se décide à prendre les mesures nécessaires pour résoudre le déficit structurel du Portugal. Il est temps de redonner des signes d'espérance en créant les conditions pour la reprise de l'emploi qui a chuté de façon vertigineuse. Selon les estimations, le taux de chômage au Portugal devrait atteindre les 17,3% de la population active d'ici la fin de l'année. Un record. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure.